important de réfléchir au cours d'une retraite au motif de notre attachement à la tradition. Pourquoi sommes-nous attachés à la tradition? Pourquoi aussi sommes-nous marginalisés, voyez, par les autorités en place? Et ceci depuis maintenant 30 ans. Il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule église. Nous le disons dans le credo. Je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique. Et nous sommes catholiques à part entière, à 100%. J'espère que vous en êtes convaincus. Et donc, il est très important de comprendre le pourquoi de notre position. Si vous ne voulez pas flancher un jour, si vous voulez être fidèle jusqu'à la mort à l'Église catholique, eh bien, il faut que vous compreniez les fondements de cette position de la Fraternité Saint-Pédis. Pourquoi Mgr Lefebvre a-t-il été marginalisé? Pourquoi avoir suivi la mouvance de Mgr Lefebvre? C'est capital pour vous. C'est très important. Alors, pour certains d'entre vous, le choix a été un choix réfléchi, un choix mûri par l'étude. Pour d'autres, eh bien, ce sont les parents. Maintenant, on arrive à la génération, ce sont les parents qui ont fait ce choix. Je vois, par exemple, parmi les séminaristes les plus jeunes, l'an dernier, le séminariste le plus jeune était né en 1987, je crois. Donc, vous voyez, il avait un an au moment des sacres, il avait 4 ans quand Mgr Lefebvre est mort, quoi. Donc, quand on parle de Mgr Lefebvre, bon, ils écoutent, mais eux, ils savent pas du tout, vous voyez. Alors, c'est important de bien comprendre le pourquoi de ce choix. Parce que, bien sûr, chaque génération, au début, reçoit certaines choses des générations d'avant, mais il est très important ensuite de faire sien, ou de se démarquer du choix des ancêtres, suivant que ces choix sont bons ou non. Alors, je pense que, comme éclairage, on pourrait dire, bon, déjà, ce que j'ai dit sur la messe hier peut aider, mais comme éclairage, je partirai maintenant, je veux arriver à vous expliquer ce qui ne va pas dans la nouvelle messe, hein, mais je vais partir du mystère de la croix. Donc, je reprendrai ce que j'ai déjà dit hier. Le mystère de la croix est le mystère central de toute l'histoire de l'humanité. Que Dieu se soit fait homme, que Dieu ait accepté de mourir pour nous sur une croix, c'est l'événement central, bien sûr, de toute l'histoire de l'humanité. Cet événement est si important que notre Seigneur l'a appelé mon heure. Lisez notamment l'évangile de Saint Jean. Cette expression revient très souvent dans la bouche de notre Seigneur, rapportée par Saint Jean. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, c'est l'heure de son sacrifice. Or, ce sacrifice, notre Seigneur a voulu qu'il soit perpétué sur nos autels. Et ceci à la fois pour que nous n'oublions pas tout ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans, et puis également pour appliquer à nos âmes les fruits de sa passion. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit à ses apôtres, lorsqu'il prononce pour la première fois, juste après avoir prononcé les paroles de la consécration, après avoir changé le pain en son corps et le vin en son sang, notre Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc réactualisez ce que je viens de faire. Donc la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Alors ce sacrifice a eu lieu essentiellement le vendredi saint, mais déjà, par anticipation, le jeudi saint, notre Seigneur s'est donné en nourriture à ses apôtres et à la très sainte Vierge Marie. Et donc, la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix, et la messe rappelle, par conséquent, en renouvelant le sacrifice du calvaire, que la vie du catholique est une vie aussi de sacrifice. La messe nous rappelle la loi de la souffrance et de la mort pour jouir un jour du bonheur du ciel. Donc, la notion de sacrifice est une notion profondément catholique. La religion catholique est vraiment la religion de l'amour, ne l'oublions pas, voyez. La religion catholique, c'est la religion de l'amour, c'est vrai. Aimez-vous les uns les autres, hein, a dit notre Seigneur. Celui qui prétend aimer Dieu, qui n'aime pas son prochain, est un menteur, dit notre Seigneur. Mais la religion donc, catholique est vraiment la religion de l'amour, mais ici-bas, il n'y a pas d'amour vrai sans sacrifice, quel que soit notre état de vie. Que vous soyez célibataire, que vous restiez dans le monde, que vous rentriez au couvent, que vous vous mariez, vous rencontrerez dans la vie des contrariétés. Et ces contrariétés, ou vous les offrez, ou vous vous repliez sur vous-même. Il n'y a pas trois solutions. Vous pouvez souffrir en damné, dès ici-bas, vous pouvez aussi souffrir en sainte, vous pouvez souffrir en catholique, tout simplement, en offrant vos souffrances. Et donc le sacrifice de la croix est là pour nous aider à accepter notre propre croix à la suite de notre Seigneur. Notre Seigneur dit, celui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui m'aime. Donc la religion catholique, c'est bien la religion de l'amour. Celui qui m'aime. Il faut aimer notre Seigneur. On doit aimer Dieu par-dessus tout. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Donc la religion catholique, c'est la religion de l'amour. Mais notre Seigneur ajoute, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il porte sa croix, c'est l'épreuve, c'est la souffrance, voyez. Souffrance que l'on rencontrera nécessairement, encore une fois. Tous nous connaîtrons un jour la souffrance. Tous nous connaîtrons un jour la mort. Seulement, nous pouvons ensuite, eh bien, imiter soit le bon larron, soit le mauvais larron. Les deux sont morts, mais l'un a rendu sa souffrance méritoire au point que il a entendu cette parole consolante de notre Seigneur. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre, eh bien, il est mort aussi, mais il est mort malheureusement dans son péché. Alors, bien sûr que on voudrait tous avoir une voie plus facile pour arriver au ciel, mais il n'y a pas d'autre voie, c'est comme cela. C'est le plan de Dieu. Avant le péché originel, mon Dieu voulait qu'on sanctifie uniquement dans la joie. Eh bien, depuis le péché originel, nous devons nous sanctifier dans les épreuves. Alors, toutes ces vérités sont simples, vous voyez, toutes ces vérités sont claires, toutes ces vérités sont cohérentes, mais pour y adhérer, il faut l'esprit de foi. Et l'esprit de foi est indispensable. Bien sûr, si on ne sait pas ce que c'est que le ciel, si on ne sait pas ce que c'est que, si on ne croit pas en notre Seigneur Jésus-Christ, si on ne voit pas tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, alors la croix, alors, nous semble très lourde. Mais plus nous aurons une notion juste de Dieu, de ce qu'est Dieu, plus nous aurons une notion juste de tout ce que notre Seigneur a subi pour nous, par amour pour nous, plus nous aurons une notion juste du ciel qui nous attend de notre côté ou de l'enfer qui nous menace, eh bien nous comprendrons à ce moment-là la nécessité, ici-bas alors, d'accepter cette loi de la souffrance. Mais l'homme moderne, eh bien lui, refuse la souffrance. Il refuse la croix. Il rejette la croix. Et c'est comme cela que bien des catholiques même ont abandonné l'Église. Alors, face à cette dure réalité, eh bien, les hommes d'Église ont voulu réagir en présentant la religion catholique sous un autre jour. Ils ont, au cours du Concile, donné à l'Église une nouvelle orientation. Donc, les notions de sacrifice, les notions de renoncement, les notions de pénitence, étant des notions jugé désuète, jugé dépassé, jugé inadmissible pour l'homme moderne qui doit s'épanouir, il faut rechercher l'épanouissement de son moi, eh bien certains hommes d'Église ont pris la décision de les éliminer du vocabulaire catholique. Ils ont estimé que l'Église, jusque-là, avait une vision trop négative de l'homme, une vision trop négative du monde, une vision trop négative des autres religions. Alors, ils ont choisi comme nouvelle orientation, pour faciliter le rapprochement avec l'homme moderne, pour faciliter le rapprochement avec les représentants des autres religions, de porter un regard positif sur l'homme moderne, de porter un regard positif sur les autres religions, de porter un regard positif sur le monde, et de se lancer dans la voie du dialogue pour assurer un rapprochement. Alors qu'avant, il s'agissait d'un enseignement. Quand on enseigne, c'est celui qui sait qui parle à celui qui ne sait pas. Il y a un rapport d'autorité. Et la voie du dialogue, il y a au contraire là un échange, échange mutuel. Lorsqu'on dialogue, eh bien, on est sur le même plan. Il y a une certaine égalité. Par ailleurs, pour faciliter ce rapprochement, eh bien, ces catholiques, ces prêtres, ces évêques même, ne se sont pas contentés de porter sur l'autre, et même le pape parfois, un regard positif, mais pour pouvoir faciliter le rapprochement avec les membres des autres religions, eh bien, se sont multipliées les demandes de pardon pour les fautes soi-disant commises par l'Église dans le passé. Et puis ensuite encore, pour faciliter le rapprochement avec les protestants, eh bien, on a éliminé de la messe tout ce qui pouvait les choquer, et notamment toutes les prières qui manifestent clairement que la messe est un sacrifice propitiatoire. Donc je le disais déjà hier, vous l'avez entendu encore dans une conférence de Mgr Lefebvre à midi, et donc là je le rappelle maintenant. Donc les protestants refusent ces notions de sacrifice expiatoire. Pour eux, le Christ est mort il y a 2000 ans, tout s'est passé il y a 2000 ans. Aujourd'hui, simplement une espèce de foi, confiance dans la mort du Christ, qui est suffisante pour être sauvé. Et nous, nous disons que non, il est nécessaire pour être sauvé eh bien, que le sang de notre Seigneur touche nos âmes, et qu'il nous touche aujourd'hui, actuellement. Et donc, d'où la nécessité de la communion pour pouvoir la communion au sang du Christ, réellement présent dans la Sainte Eucharistie, au corps du Christ, réellement présent dans la Sainte Eucharistie, pour pouvoir recevoir la vie de Dieu. Le Seigneur lui-même l'a dit. Vous voyez, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, pour recevoir la vie de Dieu, il est nécessaire de recevoir la Sainte Eucharistie. Et donc c'est pour plaire aux protestants que cette notion de sacrifice expiatoire a été évacuée du nouveau missel. Elle a été mise sous le boisseau. Résultat, la nouvelle messe, eh bien, est une messe bâtarde, donc qui est un chef-d'œuvre d'ambiguïté. En effet, le même missel peut être aujourd'hui utilisé par des pasteurs protestants et peut être utilisé par des prêtres catholiques, alors que les protestants n'ont pas du tout la même notion de la messe que nous. Luther, il disait qu'il avait en abomination ce qu'il appelait la messe papiste. Et si donc des pasteurs protestants acceptent aujourd'hui de célébrer la nouvelle messe, eh bien c'est bien parce qu'on a évacué de cette nouvelle messe tout ce qui pouvait les choquer, vous voyez. Or, ceci est extrêmement grave. En effet, si vous cherchez le plus petit dénominateur commun entre les religions, vous allez nécessairement porter atteinte à la religion qui possède l'intégrité de la foi, et qui, elle seule, renferme la totalité des vérités révélées par Dieu. Et c'est ce qui explique que le pape Pie XI, par exemple, c'est quand même pas si loin que cela de nous, hein, c'est bien un pape du XXe siècle, s'était opposé au congrès écuménique. Il expliquait que cette attitude écuménique porte atteinte au fondement même de la foi catholique, vous voyez. Il disait pas l'écuménisme est une attitude équivoque qui peut ensuite prêter à confusion. Il allait beaucoup plus loin que cela. Il disait l'écuménisme sape les fondements de la foi catholique. Parce que l'écuménisme tel qu'il est vécu, il laisse entendre que les autres religions seraient bonnes. Or, dit très bien le pape Pie XI, il dit, jusqu'ici on a toujours dit, il y a une seule religion vraie et les autres sont fausses. Donc on n'a jamais utilisé du plus ou moins. C'est vrai que matériellement, dans l'ensemble des vérités, il y a un certain nombre de vérités qui sont admises par des protestants. Il y a sans doute moins de vérités qui sont communes avec les catholiques admises par les musulmans. Il y en a peut-être encore moins qui sont admises par les bouddhistes, etc. C'est vrai, matériellement. Mais formellement, comme le disait le pape Benoît XV, la foi catholique, on la professe intégralement ou pas du tout. La foi catholique, je la professe intégralement ou pas du tout. Pourquoi ? Parce que le motif pour lequel j'adhère aux vérités, ce n'est pas que j'ai l'évidence de ces vérités. Si je crois dans les vérités que l'Église me propose, c'est pas parce que j'en ai l'évidence. La Trinité, j'en ai pas l'évidence. La Sainte Eucharistie, j'en ai pas l'évidence. L'existence d'un enfer éternel, j'en ai pas l'évidence. Si je crois à toutes ces vérités, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a révélé, et Dieu ne peut pas se tromper ni me tromper. Donc si je nie une seule vérité de la foi catholique, je montre que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu puisque je ne crois pas dans tout ce qu'il m'a dit. Je fais un tri dans ce que le bon Dieu m'a dit. Le bon Dieu m'a dit l'ensemble des vérités. Dans ces vérités, j'accepte les unes et je refuse les autres. Alors dans l'écuménisme, on ne nie pas certaines vérités, mais on les cache. On les cache pour ne pas déplaire aux autres. Mais en les cachant, on trompe les autres. On les laisse entendre qu'ils pourront se sauver dans leur religion. Et c'est faux. On ne peut pas se sauver dans une fausse religion. Donc ça, c'est très important de comprendre parce que on comprend en ce moment-là l'indignation, vous voyez, qui s'est emparée de Mgr Lefebvre et qui a dit non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas accepter une messe qui a été faite dans le but de plaire aux protestants. Je ne peux pas accepter une messe qui mette sous le boisseau des vérités catholiques pour plaire aux protestants. Même si cette messe n'est pas hérétique formellement, le fait qu'elle cache des vérités essentielles de la religion catholique serait suffisant pour que je la refuse. Et c'est l'unique motif pour lequel Mgr Lefebvre a été condamné par Rome. Mgr Lefebvre a été condamné par Rome parce que il a mis le doigt sur la plaie en refusant de coopérer à cette messe bâtarde qui est le fruit du Concile Vatican II. Rome, à l'époque, ne voulait pas de la messe traditionnelle. Aujourd'hui, Rome veut un peu plus la messe traditionnelle, ou en tout cas, je ne dirais pas qu'elle veut, elle tolère davantage la messe traditionnelle, mais à une seule condition, c'est qu'on ne dénonce pas la nouvelle messe. Donc ils veulent bien la messe catholique à côté de cette nouvelle messe qui est une messe ambiguë. Et ça, nous le refusons. Et en fait, c'est le motif pour lequel, justement, nous sommes considérés comme étant les parias de l'Église. Mais oui ou non, est-ce que la nouvelle messe, est-ce que elle est pleinement catholique? Oui ou non? Si elle est pleinement catholique et c'est simplement une traduction de la messe traditionnelle qui a été faite en français, en ce moment-là, alors bien sûr qu'on devrait la dire, vous voyez. Mais il ne s'agit pas d'une messe, et encore en ce moment-là, bon, encore on pourrait discuter, parce qu'une messe, normalement, bon, il est préférable de la dire en latin, parce que le latin est une langue morte, donc qui permet de, il n'y a pas d'évolution dans ce cas-là, bon. Après, il y a encore, d'autres éléments qui pourraient rentrer en ligne de compte sur la question de messe en latin, messe en français. Mais c'est beaucoup plus grave que cela, c'est pas une question de latin ou de français. C'est que dans cette messe, encore une fois, on a éliminé, comme je vais vous le montrer, les vérités catholiques. Et donc, c'est le motif pour lequel Mgr Lefebvre a été, dès 1976, il faut pas l'oublier, hein, il faut pas croire que l'exclusion de Mgr Lefebvre date de 1988, hein, faut pas croire cela. Hein. L'exclusion de Mgr Lefebvre, le premier pas, eh bien, ou la première sanction de Rome, est de 1976, faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, en 1976, on avait dit à Mgr Lefebvre, dites une seule fois la nouvelle messe et votre problème sera réglé. Mgr Lefebvre disait non, non. Parce que si je l'ai dit une fois, pourquoi je ne le dirai pas deux fois? Pourquoi je ne le dirai pas trois fois? Pourquoi je ne le dirai pas toujours? Si je dis une seule fois la nouvelle messe, je montre par là que cette messe est bonne. Mais moi, je dis que cette messe n'est pas bonne. Donc, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Si elle n'est pas bonne, je ne dois jamais la dire. Si je peux la dire une fois, c'est qu'elle est bonne. Je veux pas, si elle n'est pas bonne, je ne peux pas la dire une seule fois. Je ne veux pas dire une chose mauvaise une seule fois. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il a résisté, et c'est la raison pour laquelle il a été condamné. Donc, condamné en 1976 pour ce motif. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle condamnation en 1988, mais la nouvelle condamnation en 1988 était la prolongation de la condamnation première. Mgr Lefebvre disait toujours « Par qui je suis condamné et pourquoi je suis condamné ?» Je suis condamné, eh bien, par des modernistes, parce que je veux rester fidèle à la foi de mes pères. C'est le seul motif de ma condamnation. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mgr Lefebvre n'a pas tenu compte des sanctions de 1976, et il n'a pas tenu compte non plus davantage des sanctions de 1988. Alors maintenant, il y aurait bien sûr encore d'autres éléments à ajouter pour pouvoir préciser, mais là, comme je dois faire court, je vous donne quand même les éléments essentiels. Et ça, c'est très important, surtout vis-à-vis de la Fratellité Saint-Pierre, parce que la Fratellité Saint-Pierre, qui est née en 1988, eh bien, elle est née à partir de prêtres qui étaient dans la Fratellité Saint-Pédis jusqu'en 88, hein. C'est-à-dire de prêtres suspens qui normalement n'auraient pas dû donner les sacrements depuis 76. Or, jamais un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, eh bien, n'a dit qu'il a donné des sacrements qui étaient pas bons quand il était dans la Fraternité Saint-Pédis. Donc, tout d'un coup, c'est devenu mauvais à partir du moment où eux, ils ont viré. Donc là, ça va pas, voyez. Et puis, en plus, alors donc, aujourd'hui, dans la Fraternité Saint-Pierre, eh bien, malheureusement, elle cautionne, objectivement, elle cautionne la nouvelle messe puisque, aujourd'hui, le supérieur de la Fraternité Saint-Pierre, eh bien, laisse la liberté à tous ses prêtres de concélébrer le jeudi saint. Donc, je ne dis pas que le supérieur de la Fraternité Saint-Pierre ordonne à tous ses prêtres de concélébrer le jeudi saint, mais il leur laisse la liberté. Mais le fait de laisser la liberté à un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre de dire la nouvelle messe, donc de concélébrer avec l'évêque le jeudi saint, eh bien, c'est suffisant pour montrer que, eh bien, il pose la messe traditionnelle à côté de la nouvelle messe, comme si c'était deux reines légitimes. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, voyez, c'est que la nouvelle messe, sans qu'elle soit formellement hérétique, malgré tout, elle estompe, elle met de côté, eh bien, certains aspects de la foi catholique. Et c'est parce que nous dénonçons cela que nous sommes aujourd'hui marginalisés. Et donc ça, c'est toute la différence qu'il va y avoir entre la mouvance de la fraternité, maintenant, aujourd'hui en tout cas, Fraternité Saint-Pilice, et la Fraternité Saint-Pierre, et donc toutes les communautés ecclésiadéies. C'est que les autres communautés, eh bien, aujourd'hui, elles sont acceptées par Rome. Le motif pour lequel elles sont acceptées, c'est parce que, eh bien, eux, ils acceptent le principe de poser la messe traditionnelle à côté de la nouvelle messe. Vous voyez. Et ça, nous, on ne peut pas. On ne peut pas estimer que ce sont deux reines légitimes. C'est pas vrai. Et donc, étudiez en ce moment-là par vous-même, vous verrez, déjà par les éléments que je vous donne ici, étudiez la nouvelle messe et vous vous rendrez bien compte que ça ne va pas. Et ça, c'est très important pour nous rassurer, je dirais, par rapport à notre position. Alors, bien sûr que nous espérons qu'un jour, que le pape nous reconnaîtra pour ce que nous sommes, puisque nous sommes pleinement catholiques. Nous savons d'ailleurs qu'un jour, le pape le reconnaîtra. C'est très important. On pourrait avoir un apostolat plus important. On sera plus montré du doigt par les uns ou les autres. En ce moment-là, ça facilitera les choses. Mais il est nécessaire que du côté de Rome, ils aient en ce moment-là, qu'ils soient capables, eux, de voir que dans le concile, il y a des choses qui ne vont pas. Et que dans la nouvelle messe, il y a des choses qui ne vont pas. Tant que Rome ne reconnaîtra pas ce qui ne va pas dans le concile et ce qui ne va pas dans la nouvelle messe, ce sera très difficile d'arriver à un accord. Parce que en 88, quand il y a eu un accord, vous voyez, ils ont joué à la carte, on pourrait dire ça comme ça, d'un point de vue simplement humain, si vous voulez, à la carte à malin, malin ennemi. À savoir que les prêtres qui ont quitté la Fraternité Saint-Pilice pour aller dans la Fraternité Saint-Pierre, il faut savoir que donc l'acte de naissance de la Fraternité Saint-Pierre, c'est l'acte qui nous de notre condamnation à mort, puisque c'est le motu proprio du 2 juillet 1988 qui donne droit d'existence à la Fraternité Saint-Pierre et qui condamne Mgr Lefebvre. C'est le même document. Donc c'est le même document qui signe leur acte de naissance et c'est le même document qui nous condamne à mort. Parce que c'est ce document qui excommunie Mgr Lefebvre. Donc ça, c'est un point donc déjà important dans la Genèse. Mais alors, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, au départ, ils ont dit, eh bien, on va profiter que Rome, aujourd'hui, nous donne certains avantages. Les avantages que Rome leur a donnés, c'est contre nous, bien sûr, hein, parce que c'est contre la Fraternité Saint-Pilice. Mais eux ont profité de cette situation, alors qu'on aurait été beaucoup plus forts, mais sûr, si on était restés ensemble. Ils ont profité de cette situation, de cet avantage, pour nous quitter, et pour obtenir donc les avantages que Rome promettait. Mais à ce moment-là, ils se sont mis donc sous la coupe des évêques. Bon, par exemple, j'étais à Lyon à l'époque. Enfin, à l'époque, j'étais séminariste quand ça s'est passé. Mais ensuite, après, j'étais nommé à Lyon tout de suite, dès le mois d'octobre 88. Et donc, à Lyon, donc vous aviez le prêtre de la Fraternité Saint-Pilice est passé à la Fraternité Saint-Pierre, il est resté sur Lyon, et il était en ce moment-là sous la coupe du cardinal de Courtrai. Eh bien, en ce moment-là, ils se sont dit, on va jouer la carte des accords avec donc les autorités en place, sans être d'accord avec eux, on va faire comme si on était d'accord. Et l'évêque de Lyon, à l'époque, cardinal Courtrai, a fait la même chose. A dit, je les accueille comme si j'étais d'accord avec eux, alors que je suis pas d'accord avec eux. Mais alors, si les deux jouent cette carte-là, vous voyez, on va faire comme si on était d'accord, alors que dans le fond, on n'est pas d'accord. Eh bien, dans les faits, l'autorité a une mainmise beaucoup plus forte que celui qui se fait accueillir. Donc, on leur donne une belle église, et on leur dit, donc c'est l'église, c'est la carotte, et puis ensuite, après, viens par ici, et puis ensuite, après, ben, une fois qu'on est dans l'église, après, ben alors, hop, est-ce que vous pouvez faire ceci ou cela? Et après, on vous mène en bateau, vous voyez. Et c'est comme ça que, eh bien, le cardinal de Courtrai avait dit que ce qu'il souhaitait, il n'attendait pas plus la Fraternité Saint-Pierre, il demandait simplement que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre acceptent de concélébrer le Jeudi Saint. Eh bien, aujourd'hui, tous les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ont le droit de concélébrer le Jeudi Saint. Et ça, c'était donc la stratégie qui a été utilisée à l'époque, vous voyez. Donc il faut bien comprendre l'attitude des autorités. Et ça se comprend assez bien, vous voyez, ça se comprend assez bien. Ils se sont dit, dans la mesure où ils seront officiellement dans le giron de l'Église, en ce moment-là, ils pourront plus nous critiquer. Donc ils seront muselés, ils pourront plus critiquer les erreurs du Concile. Et puis en ce moment-là, après, petit à petit, eh bien, on finira bien par les conduire à là où on veut. Et c'est ce qui s'est produit. Alors c'est important de bien saisir cela. Alors maintenant, bien sûr qu'après, on pourrait encore parler de la fameuse excommunication. Bon, c'est encore un autre domaine. Bon, je peux pas tout dire. Hein. Je cite ici simplement le cardinal Journet qui disait « Il se pourra que le pouvoir canonique soit égaré par de faux témoignages, par l'ignorance ou la passion de ses dépositaires quand il portera une sentence d'excommunication. L'obéissance serait alors impossible et il faudrait supporter l'excommunication avec foi et humilité. On a le cas de saint Athanase qui a été excommunié par le pape Libère et qui est maintenant sur les autels. Alors maintenant, essayons de voir un petit peu alors plus ce qui ne va pas dans la nouvelle messe, puisque je vous dis, toute la différence, enfin tout le différent entre Rome et nous vient de là. Tout le différent vient du concile, mais ensuite la messe étant le fruit du concile, la nouvelle messe étant le fruit du concile, eh bien la nouvelle messe, le refus de la nouvelle messe, eh bien, est le, d'une certaine manière, symbolise un petit peu notre orientation vis-à-vis de Rome aujourd'hui. Alors hier, je vous ai fait une instruction sur la messe catholique, sur la messe de toujours. Donc, essayez de garder en mémoire ce que j'ai dit hier sur la messe, pour vous rappeler ce qu'est la messe. Et maintenant, en préambule, donc, je rappellerai que la messe donc est le trésor de l'Église, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier. La messe est comme le joyau de l'Église. Par conséquent, avant de toucher à un tel trésor, il faut peser, bien sûr, toutes les conséquences d'un tel acte. Donc on ne peut pas modifier ce qu'il y a de plus saint, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus sacré dans la religion catholique, de plus vital pour l'Église et pour nos âmes. Et donc si on le touche à ce trésor, c'est dans le but de l'embellir davantage. C'est quand même évident, vous voyez. Et donc ça, c'est déjà la première chose qu'on peut se dire. Si de fait, il était nécessaire, l'autorité, parce que le pape peut toucher à la messe, hein, mais si le pape désire toucher à cette messe, eh bien c'est dans le but de rendre cette messe encore plus glorieuse pour Dieu, et ensuite pour faciliter eh bien les sentiments d'adoration, d'action de grâce, de regret de nos péchés, enfin tout ce qu'on a pu dire hier, que nous devons avoir comme sentiment lorsque nous assistons au Saint-Sacrifice de la messe. Vous voyez, si on fait une modification de la messe, ça doit être dans ce sens-là. Ensuite, un autre élément important, c'est quand même l'argument de tradition. Il est permis de se poser la question, était-il vraiment indispensable de modifier une messe dont le canon remonte pour l'essentiel aux apôtres et qui est dans sa forme actuelle depuis le pape Saint Grégoire le Grand? On utilise le terme de messe de Saint Pie V. Certaines personnes en concluent que c'est Saint Pie V au XVIe siècle qui a inventé cette messe qui porte le nom de messe Saint Pie V. Pas du tout. Le pape Saint Pie V s'est contenté simplement de demander que dans l'Église universelle, cette messe soit célébrée. À part les endroits où il y avait des rites qui existaient depuis plus de 200 ans. Parce qu'il y avait une multiplication de rites, donc il a codifié, en fait, les rites qui avaient tendance à se multiplier en demandant que ce rite qui existait déjà, eh bien, soit répandu donc, dans l'Église universelle. Donc, vous voyez, l'Église est une tradition. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, c'est de transmettre. Le rôle de l'Église n'est pas d'innover, le rôle de l'Église, c'est de transmettre. Donc on dit qu'une boucherie, par exemple, il y a une tradition, le terme tradition, ça marche bien, ou boulangerie aussi, traditionnelle, bon, très bien. Donc là, on peut dire qu'ils ont une tradition. Mais l'Église, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas l'Église a une tradition, c'est que l'Église est une tradition. Parce que le rôle de l'Église est de transmettre les vérités de la foi qui ont été donc révélées par Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'intermédiaire des apôtres. Donc depuis la mort du dernier des apôtres, qui est saint Jean, la révélation est close, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles vérités. La seule chose que l'Église fait, c'est de puiser dans ce trésor des vérités qui ont été révélées déjà dans l'Ancien Testament, ensuite par notre Seigneur et ensuite par les apôtres, de puiser dans ce trésor pour faire passer certaines vérités de l'implicite à l'explicite. C'est la seule chose que l'Église fait. Donc l'Église est une tradition. Et cela explique, donc, comme l'Église est une tradition, l'argument de tradition est un argument qui est très fort pour un catholique. Donc on cherche à toucher le minimum, simplement, à cette tradition, parce que c'est le rôle de l'Église, encore une fois, n'est pas d'innover, mais de transmettre. Et ceci est si vrai que saint Paul pouvait dire, « Si quelqu'un, fût-ce un ange du ciel, vous prêchez un évangile autre que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Galates, chapitre 1er, verset 8. Donc le simple fait de transformer une messe qui a sanctifié tant et tant d'âmes pendant la plus grande partie de l'histoire de l'Église doit déjà faire réfléchir. Voyez, vous avez la bulle de Saint Pie V, quand Saint Pie V donc a codifié cette messe, il a établi une bulle qui renferme ce passage, celui qui oserait porter la main contre cette œuvre, qu'il sache qu'il encourrait la colère du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donc c'est cette bulle de Quo Primum du 19 juillet 1570. Donc deux arguments à retenir du point de vue de la messe traditionnelle. La messe est le trésor de l'Église, et puis ensuite la messe est ancienne. La messe telle que nous disons n'est pas une messe qui a été inventée au XVIe siècle, après la Réforme, c'est une messe qui date pour l'élément principal, le sang du canon des apôtres, et puis ensuite, pour le reste, au plus tard, Saint Grégoire le Grand, donc qui a été pape de 590 à 604. Alors après vous avoir donné déjà ceci comme point de départ, essayez maintenant de voir la conception protestante de la messe, voyez. Si vous aviez plus connaissance de ce que c'est que la scène protestante, et si les catholiques qui assistent aujourd'hui à la nouvelle messe savaient plus ce que c'est que la scène protestante, peut-être qu'ils réagiraient davantage, peut-être qu'ils réaliseraient davantage qu'ils sont devenus eux-mêmes protestantisants, voire presque protestants sans le savoir. Donc Luther refuse tout d'abord le caractère propitiatoire de la messe. Il disait ceci. Rien que cette phrase, voyez, de Luther est très intéressante parce qu'elle montre l'orientation qu'il a prise lorsqu'il a fait donc sa messe à son époque. Le culte s'adressait à Dieu comme un hommage. Il s'adressera désormais à l'homme pour le consoler et l'éclairer. Le sacrifice occupait la première place. Le sermon va le supplanter. Donc, voyez, pour Luther, jusque-là, le culte s'adresser à Dieu comme un hommage. Et c'est vrai, c'est l'orientation catholique. Eh bien, il dit, il s'adressera désormais à l'homme pour le consoler et l'éclairer. Rien que le fait que la messe soit dite maintenant face au peuple, vous voyez, où le prêtre parle aux fidèles, on a l'impression que la messe est dite pour les fidèles. Non, la messe est d'abord un sacrifice qui est offert à Dieu. Et c'est pour ça que le prêtre se tourne vers Dieu lorsqu'il offre ce sacrifice. En conséquence, refusant le caractère propitiatoire de la messe, eh bien, il supprime l'offertoire qui exprime clairement le but expiatoire et propitiatoire du sacrifice. Il disait, la messe, ils en font un sacrifice et une bonne œuvre. Donc il y a un principe protestant qui dit sola fides, donc la foi seule sans les œuvres. Donc il refuse les œuvres. Et donc il refuse la messe qui est une bonne œuvre. Ensuite, après, il va ajouter dans la formule de consécration, quod pro vobis traditur, qui sera livré pour vous. Il va supprimer dans les mêmes paroles de la consécration le mysterium fidei, mystère de la foi, et il va supprimer aussi le fait que le sacrifice est offert pour beaucoup. Et il explique lui-même pourquoi est-ce qu'il fait ces changements. Il dit qu'il veut en fait s'appuyer uniquement sur la Sainte Écriture. C'est un autre principe protestant qui dit sola scriptura, donc seule la Sainte Écriture, donc c'est le refus de la tradition. La tradition, en fait, c'est la transmission par voie orale des vérités de la foi. Voyez, avant que les évangiles n'aient été écrits, eh bien, la religion avait déjà commencé à se répandre. Les apôtres avaient commencé à prêcher. Donc, les vérités qui ont été transmises par les apôtres de bouche à oreille, avant que les évangiles n'aient été écrits, c'est ce qu'on appelle la tradition. Et donc, le catholique s'appuie non seulement sur les écrits, sur la Sainte Écriture, mais il s'appuie aussi sur la tradition, c'est-à-dire sur ce qui a été transmis par les apôtres de bouche à oreille. Voyez. Saint Jean termine son évangile en disant qu'il n'a écrit qu'une partie de ce que le Christ a pu dire et faire. Et que s'il avait dû tout écrire, eh bien le monde entier ne suffirait pas pour contenir tout ce que le Christ a pu dire et faire. Et donc l'Église, voyez, va puiser donc dans le trésor de la révélation qui a pour source la Sainte Écriture, mais aussi la tradition. Donc pour le catholique, il y a deux sources de révélation, l'Écriture et la tradition. Par exemple, la manière de dire la messe. Eh bien, vous ne trouvez pas dans les évangiles la manière de dire la messe. Vous trouvez dans les évangiles les paroles de la consécration, mais vous ne trouvez pas les autres paroles, la manière de dire la messe. Voyez, les détails n'y sont pas. Alors cela a été transmis par voie orale. Au début des Actes des Apôtres, chapitre 1er, il est dit justement que notre Seigneur s'est entretenu avec ses apôtres du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est le ciel, mais le royaume de Dieu, c'est aussi l'Église. Et donc pendant ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension, notre Seigneur a donné des consignes pratiques à ses apôtres sur la manière de prêcher, sur la manière de célébrer donc la messe, sur la manière de baptiser, etc. Et tout cela n'a pas été consigné par écrit. Et donc les protestants, eux, ne s'appuient que sur la Sainte Écriture. Mais nous, catholiques, nous nous appuyons sur la tradition. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Et donc c'est précisément parce que les paroles que nous avons, nous, aujourd'hui, dans la messe, sont des paroles traditionnelles, qui viennent de la tradition, que nous les disons. Et Luther, voyant cela, il a dit non, revenons à la Sainte Écriture. Et donc, il a changé les paroles de la consécration pour revenir à la Sainte Écriture. Et vous allez voir que dans la nouvelle messe, ils ont repris exactement la même chose. Enfin, il y a juste le Promultis qui est maintenant traduit par Pour tous, qui est d'ailleurs encore presque plus grave que de l'avoir supprimé complètement. Au moins, par Pour tous dans certaines traductions, en tout cas dans certaines traductions, oui. En français, on dit pour la multitude, qui est un terme ambigu, parce que pour la multitude, ça peut vouloir dire pour tous, ça peut vouloir dire pour beaucoup. Et puis ensuite, Luther va transformer le ton intimatif des paroles de la consécration par un ton narratif. À savoir que, donc, le ton intimatif, c'est un ordre que l'on donne. C'est-à-dire que dans les paroles traditionnelles, on dit le Christ, la veille de sa passion, donc il prit du pain, il le rompit, bon, il rendit grâce, et puis il donna à ses disciples en disant, et là, on s'arrête. Et puis après, on dit « hoc est enim corpus meum ». Donc, par le fait que l'on s'arrête, et qu'ensuite, après, on dit « hoc est enim corpus meum », on montre bien qu'il ne s'agit plus d'une narration, il s'agit maintenant d'une action. Voyez. Or, pour les protestants, eh bien, il s'agit d'une narration. Donc, la formulation protestante, c'est le Christ, la veille de sa passion, donc il prit du pain, il le rompit, il bénit, il donna à ses disciples en disant « ceci est mon corps ». Eh bien, dans la nouvelle messe, maintenant, la ponctuation a changé. Au lieu qu'il y ait un point, comme il y avait avant dans la messe traditionnelle, on a mis deux points, qui est beaucoup plus dans la logique du récit. Alors, je ne dis pas que les prêtres qui disent la nouvelle messe vont le dire dans la logique du récit, mais il y a une porte ouverte à la possibilité de dire les paroles dans la logique du récit. Et c'est toute l'ambiguïté de la nouvelle messe. Ensuite, la présence réelle. Luther en conclut, donc, à la négation de la transsubstantiation telle qu'elle est enseignée dans la religion catholique, et de la présence réelle, donc, telle qu'elle est enseignée dans l'Église. Pour lui, le pain demeure, et puis après, pour plusieurs de ses disciples, eh bien, le corps du Christ ne sera même pas présent. Ensuite, alors, ça c'est un autre aspect aussi, donc, qui montre bien, encore aussi l'ambiguïté de la nouvelle messe. C'est que les génuflexions de 12 sont passées à 2. Vous voyez, dans la nouvelle messe, il n'y a plus 12 génuflexions, il n'y en a plus que 2. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir où est-ce que dans la nouvelle messe ont été placées les 2 génuflexions. Eh bien, les 2 génuflexions, s'il ne fallait en garder que 2, il fallait garder les 12, hein. S'il n'en fallait garder que 2, il aurait fallu garder celles qui suivent immédiatement la parole, ceci est mon corps. Parce que si je m'agenouille dès que j'ai dit ceci est mon corps, je montre par là que je crois que le Christ est rendu présent par les paroles, ceci est mon corps. Tandis que si je présente d'abord l'hostie aux fidèles, je peux laisser entendre que c'est la foi des fidèles unie à celle du prêtre qui rend le Christ présent. Et donc pour les protestants qui croient en une certaine présence du Christ dans l'hostie, pour eux c'est une présence spirituelle, qui est rendu non pas par les paroles, par la force des mots prononcés par le ministre qui a reçu le caractère sacerdotal, c'est en raison de la foi au Christ, du célébrant auquel sont unis les fidèles qui sont derrière lui. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a fait en sorte dans la nouvelle messe que de montrer d'abord l'hostie. Avant que le prêtre, lorsque les prêtres font encore la génuflexion, pour que le prêtre fasse la génuflexion. Laissant entendre que le Christ est rendu présent non plus par les seules paroles prononcées, mais par l'engagement de la foi du célébrant et des assistants. Alors, je ne dis pas encore une fois que les prêtres qui disent la nouvelle messe croient cela. Je dis simplement que la porte est laissée ouverte à cette interprétation. Et donc, là encore, il y a un doute qui peut planer, en tout cas, sur les esprits, puisque dans la force de la vérité catholique, c'est justement toute la force du catholicisme, c'est que les vérités catholiques sont exprimées clairement, voyez. Notre Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est clair, voyez. Ou alors il menace aussi du feu éternel, bon, ceux qui sont infidèles. Donc les vérités catholiques sont des vérités qui sont claires. Or, maintenant, on nage dans la plus grande ambiguïté. Si bien que, alors que dans une cérémonie traditionnelle, eh bien, on n'a pas normalement à avoir de doute sur la présence réelle du Christ dans l'hostie, puisque par les forces mêmes des paroles et par les gestes du prêtre, tout contribue à montrer que le Christ est réellement présent. Dans la nouvelle messe, eh bien, c'est ambigu. Donc, on ne sait pas. Donc, on doute. Vous voyez. Le doute est donné. Alors maintenant, dans la nouvelle messe, on est obligé de regarder le prêtre. Alors que normalement, quand on veut analyser une messe, on ne doit pas regarder le prêtre, on doit regarder la messe. Vous voyez. Quand on veut juger normalement d'un acte, eh bien, on regarde cet acte, on regarde l'objet de cet acte. L'intention ne vient qu'après. Et donc maintenant, pour le prêtre, dans la nouvelle messe, on est obligé de regarder l'intention parce que justement, l'acte lui-même est ambigu. Il est sujet à double interprétation. Et puis ensuite, alors, dans la mesure où beaucoup de protestants après ne croient plus en la présence réelle, donc il n'est pas du tout étonnant qu'ils donnent la communion dans la main et sous les deux espèces. Si le Christ n'est pas présent totalement sous chacune des espèces, il est normal que l'Eucharistie soit considérée comme incomplète sous une seule espèce. Et de même, pour les protestants vont transformer les autels et les remplacer par une table. Et là encore, un protestant explique « Parce qu'un autel sert à offrir un sacrifice, tandis qu'une table sert à manger », personne ne peut nier que la forme d'une table est plus indiquée pour nous rendre au repas du Seigneur. Alors, avec une telle conception de la messe et de la présence réelle, on comprend que le rôle du prêtre soit bien diminué. Le prêtre devient le président de l'assemblée. Il n'agit plus en lieu et place du Christ. Dans son ouvrage sur la messe privée, Luther cherche à démontrer que le sacerdoce catholique est une invention du diable. Merci Luther. Or, dit-il, la Sainte Écriture ne connaît qu'un prêtre, qu'un pontife, le Christ. Avec le Christ, nous sommes tous prêtres. Toute distinction hiérarchique entre les chrétiens est digne de l'antéchrist, malheur au prétendu prêtre. Donc, vous voyez ça dans le livre du luthéranisme à la page 269. Ou encore, dans le même livre, à la page 148-149, tous les chrétiens sont en vérité de l'état ecclésiastique, il n'y a entre eux aucune différence que celle de la fonction. Donc le prêtre doit quitter l'habit ecclésiastique, puisqu'il n'est pas plus prêtre que le simple fidèle, et n'a aucune raison de garder le célibat, et c'est pour ça que Luther lui-même et ses disciples se marient. Alors, une fois qu'on sait ce que c'est que cette scène protestante, pour un catholique, normalement, il doit être, si vous voulez, indigné, si vous voulez, par cette façon de célébrer, vous voyez, par cette parodie de messe, vous voyez, c'est évident. Saint François de Sales, qui était le doux François de Sales, eh bien, il n'a pas fait amour-amour avec les protestants. Il a cherché à les convertir. Il a converti 70 000 protestants. Ou encore la Sainte Vierge, lorsqu'elle est apparue à, je ne sais plus comment il s'appelait, Pierre Port-Combé, dans l'Isère, là. Eh bien, elle a dit à ce protestant, qui finalement, à Notre-Dame de Loziers, qui s'est converti, qu'il serait un des plus grands tisons d'enfer s'il ne se convertissait pas. Donc là, vous voyez, la Sainte Vierge, elle utilise des moyens forts, vous voyez. Et donc, le protestantisme, eh bien, est infiniment éloigné du catholicisme. C'est pas la vraie religion. Il n'y a qu'une vraie religion, c'est la religion catholique. C'est comme ça. Et là, c'est pas Monsieur Lefebvre qui l'a inventé, ça, vous voyez. C'est la position catholique de toujours. Lisez le pape Pie XI, il le rappelle. Et alors maintenant, dans la mesure où vous voyez bien que cette scène protestante est infiniment éloignée de la messe catholique, eh bien, on comprend, si vous voulez, que c'est absolument inconcevable pour un catholique de chercher à faire une messe bâtarde qui puisse être acceptée par des protestants. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est produit. Luther avait dit « Quand la messe sera renversée, je pense que nous aurons renversé la papauté, car c'est sur la messe que s'appuie la papauté tout entière, avec ses monastères, ses évêchés, ses collèges, ses autels, ses ministres et sa doctrine. Tout cela s'écroulera quand s'écroulera leur messe sacrilège et abominable. » Luther dans In De Captivitate Babylonis. Alors la preuve de l'influence des protestants dans l'établissement de la nouvelle messe, essentiellement la nouvelle messe a été établie par le père Bunini, qui avait une très grande influence sur le pape Paul VI. Or, dès 1955, le père Bunini a fait traduire en italien les livres liturgiques protestants par Monseigneur Pintonello, parce que lui-même ne connaissait pas l'allemand. À ce moment-là, il n'était qu'un petit membre d'une commission liturgique. Ensuite, il a été professeur de liturgie au Latran, mais il a été démis par le pape Jean XXIII à cause de son modernisme. Mais selon la tactique moderniste, Eh bien, après avoir disparu un moment, il est réapparu quelque temps après pour répandre ses idées nouvelles. Et Mgr Chicognani, qui était alors secrétaire d'État du pape Paul VI, a reconnu lui-même l'influence de Bunini sur le pape Paul VI. De même, le cardinal Guth, préfet de la congrégation du culte, et son adjoint, l'archevêque Antonini. Bunini n'était que le troisième de cette congrégation, mais il était tout puissant. Vous pourrez relire « L'Église infiltrée par le modernisme », c'est la page 32 à 36. Donc, pour mieux connaître la liturgie protestante, Bunini a fait traduire les livres liturgiques en italien. Il a également fait venir 6 experts protestants pour l'élaboration de la nouvelle messe. Il avait dit, dès le 19 mars 1965, « Nous devons enlever de nos prières catholiques tout ce qui peut être l'ombre d'un achoppement pour nos frères séparés, protestants. » Vous voyez ça dans la documentation catholique du 4 avril 1965, également dans l'Osservatore Romano. Donc je prends volontairement, vous voyez, les documents officiels. Vous voyez. Officiellement, ces experts n'étaient que des observateurs, mais en réalité, ils ont joué un rôle actif. Mgr Baum, responsable des affaires œcuméniques de la conférence épiscopale américaine, l'a reconnu. Les experts protestants ne sont pas là seulement en observateurs, mais en consulteurs. Ils participent pleinement aux discussions sur le renouveau liturgique catholique. Cela n'aurait pas beaucoup de sens s'ils se contentaient d'écouter, mais ils contribuent. Autre témoignage, celui de Mgr Boudon, dans son compte rendu de la 8e session du Concilium. Nous avons eu la joie de bénéficier, comme lors de la session précédente, en octobre 1966, de la présence active d'observateurs délégués par les autres églises chrétiennes. Prenant part à nos travaux, ils ont pu nous apporter le témoignage de leurs propres recherches et conforter celles-ci avec les nôtres. La réforme liturgique s'élabore dans un climat d'écuménisme éminemment profitable pour chacun et à longue échéance pour l'unité de l'Église. Vous voyez ça dans la revue Savoir et Servir, numéro 55. Alors, quelques mots encore sur la nouvelle messe. J'étais trop long, donc maintenant je vais être très court. Alors, s'il fallait, pour arriver à la conclusion, s'il fallait donc montrer ce qui ne va pas dans la nouvelle messe, il suffirait de regarder, en fait, deux messes, la messe catholique, donc la messe Saint-Pie V, la messe de toujours, la nouvelle messe et une scène protestante. Vous essayez de regarder trois cérémonies, telles qu'elles sont célébrées, je dirais, d'une façon ordinaire, vous voyez, dans les églises ou les temples, aujourd'hui. Vous voyez, vous prenez simplement ces trois cérémonies. Vous regardez donc la messe catholique, vous voyez un prêtre qui parle en latin, et puis ensuite après qui parle à voix basse, qui est tourné donc vers Dieu, qui ensuite après va donner la communion donc aux fidèles qui sont à genoux, sur la langue. Bon. Ensuite après, vous assistez à une nouvelle messe. Donc là, vous voyez sur une table un prêtre en aube de Thésée, donc qui est tourné vers les fidèles avec une aube prénatale. Et donc tourner vers l'assemblée. Ensuite après, vous le voyez donner la communion dans la main, parfois sous les deux espèces. Il parle à voix haute et toujours en français. Et une messe qui est beaucoup plus courte, avec plus de lecture au départ, et puis après la deuxième partie de la messe qui est bâclée. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Ensuite après, vous assistez à une scène protestante. Ben vous constatez que la scène protestante, vous vous demandez laquelle des deux est en fait la nouvelle messe. Si vous savez qu'il y en a une des deux qui est la nouvelle messe, voyez. Mais c'est vraiment frappant de voir que c'est la même chose. Voyez. Un fidèle m'a dit un jour que justement c'est ça qui l'a beaucoup éclairé. Il a eu l'occasion d'assister à un office protestant pour une raison familiale. Il a dit ah ben alors là j'ai bien vu que c'était flagrant. Comment est-ce que les catholiques se sont rapprochés vraiment des protestants, quoi. Pour lui, c'était évident. C'est une évidence. Alors, donc ça, c'est vraiment quelque chose... Quand on le sait, vous voyez, et quand on sait ce que c'est que la religion catholique, quand on sait ce que c'est que la religion protestante, on se dit c'est vraiment inadmissible. Vous voyez, inadmissible. Et c'est, encore une fois, le motif de notre exclusion. Et donc, tout ce qui est après la mouvance de la Fraternité Saint-Pierre, alors eux, ils mettent complètement l'ambiguïté en plus là-dedans, parce que ils laissent entendre qu'on peut très bien être pour l'un et pour l'autre. Mais c'est impossible. Si je suis pour la messe traditionnelle, je suis contre la nouvelle messe. Mgr Lefebvre le disait, il a raison. Si je suis pour la messe traditionnelle, c'est parce que je suis pour tout ce qui se rattache à cette messe traditionnelle. Vous voyez. C'est la foi de toujours, c'est l'esprit de sacrifice, l'esprit de renoncement, c'est la croyance dans les séquelles du péché originel, c'est dans la croyance de la grâce, croyance de la Sainte Trinité. Enfin, tous les mystères de la religion sont très présents dans la messe toujours. Et ces mêmes mystères sont beaucoup moins présents dans la nouvelle messe. Vous voyez. Alors aujourd'hui, il semblerait dans l'Église officielle que certains en ont un petit peu pris conscience et on revient en arrière, mais un petit peu à l'envers, dans le sens où l'élément principal, c'est le sacrifice. Et aujourd'hui, l'élément du sacrifice, eh bien, on n'ose pas encore y toucher. Alors, on arrive un peu plus à la notion de la présence réelle. Donc, certains prêtres qui sont plus traditionnels, d'esprit plus traditionnel dans le courant moderne, hein, donc reviennent un peu plus à l'adoration du Saint-Sacrement, à la présence réelle. C'est déjà une étape, mais le fondement de la présence réelle, eh bien, c'est le sacrifice. Hein. Il faut revenir à l'élément central du sacrifice propitiatoire. Et ça, c'est nous, c'est notre rôle, vous voyez. Et si on pose la vérité à côté, ou l'erreur, si on laisse poser l'erreur, se poser l'erreur à côté de la vérité sans rien dire, eh bien, on cautionne l'erreur. Je cautionne l'erreur si, alors bien sûr, je me fais montrer du doigt, bien sûr, je suis considéré comme étant, donc, un exclu. Mais bon, vu l'option préférentielle pour les exclus aujourd'hui, ben, peut-être que j'ai une chance. mais c'est comme ça. Donc, alors je vais terminer maintenant par des paroles de Mgr Lefebvre qui doivent nous encourager à rester fidèles. Mais ah oui, juste avant quand même, la question de la validité de la nouvelle messe, vous voyez. Mgr Lefebvre disait « La validité est un mot piège ». Donc je vous ai dit que dans la messe traditionnelle, on considère que la messe est valide jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que elle est dans la mesure où elle est porteuse par elle-même de toutes les vérités catholiques, on n'a pas à se poser la question, c'est évident que la messe est valide, voyez. Tandis que la nouvelle messe, maintenant, eh bien, dans la mesure où elle est ambiguë, on peut pas trop savoir, en fait, si elle est ou si elle est pas. Donc après, en fonction du célébrant, en fonction de la foi du célébrant, en fonction de la manière dont il la célèbre, on pourrait se dire, bah oui, il semble qu'elle est plutôt valide, ou au contraire, on a des doutes, voyez. Donc, parce que les vérités ne sont pas exprimées d'une façon claire. Alors, maintenant, certains fidèles vont dire « Oui, mais alors justement, moi je connais un prêtre, hein, celui-là il est bien, il est pieux, il dit bien sa messe. D'ailleurs, il dit le Kyrie en latin. Je suis désolé madame, mais Kyrie c'est du grec. Ah bon ?» Ah bon ? Donc il dit le Kyrie en latin, et donc ça va très bien, voilà. Bon. Et l'Alléluia c'est de l'hébreu par contre. Hein. Eh bien, Mgr Lefebvre disait « La validité est un mot piège. Pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude des termes théologiques et canoniques, validité veut dire valable. Ce n'est pas cela. La validité, c'est-à-dire la présence, l'efficacité, si vous voulez, de la grâce qui se trouve dans le sacrement, l'efficacité du rite peuvent être là, même si la cérémonie est sacrilège. Une messe valide peut très bien être sacrilège. » Donc, sacrilège, ici, c'est dans le sens, si vous voulez, de « indigne de Dieu », voyez. Quand on a le sens de la transcendance de Dieu, eh bien, on doit avoir des attitudes qui se correspondent, voyez, à Dieu. Par exemple, on voit bien que quand Saint-Pierre, il y a eu le miracle de la pêche miraculeuse, en voyant ce miracle, Saint-Pierre a été saisi par la transcendance de notre Seigneur. Et tout de suite, il a dit « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur ». Ou encore, les apôtres, lorsqu'ils ont vu notre Seigneur transfiguré, eh bien, immédiatement, presque, ils se sont mis à plat ventre, par terre, tellement ils se sont sentis tout petits par rapport à cette gloire de Dieu, de notre Seigneur qui apparaissait. Voyez. Donc, si vraiment notre Seigneur est sur l'autel, eh bien, on doit avoir aussi une attitude digne, voyez, de Dieu qui se rend présent sur l'autel, voyez. Alors, si on a une attitude dégagée, une tenue vestimentaire très cool, qui est très légère, ben, ça va pas, vous voyez. Et donc, en ce moment-là, et si le prêtre lui-même eh bien traite le sacrement avec d'une façon aussi très légère, eh bien, en ce moment-là, on pourra dire, cette messe est une messe qui est sacrilège. Sacrilège dans le sens où elle ne rend pas à Dieu tout l'honneur qui lui est dû, vous voyez. Donc, si vraiment on croit en la présence de notre Seigneur, eh bien, normalement, spontanément, on doit avoir une attitude qui correspond, vous voyez. Bien que la validité de la nouvelle messe puisse ne pas être mise en cause, c'est une messe empoisonnée. Parce que lorsque l'on n'affirme plus les vérités vraiment catholiques de la messe pour plaire aux protestants, peu à peu, la foi dans ces vérités disparaît aussi. C'est tellement évident dans toutes les conséquences. C'est pourquoi il est impossible pour moi de dire que cette réforme n'est que mauvaise d'une manière purement accidentelle, purement extérieure, extrinsèque. Et donc, Mgr Lefebvre disait, au sujet de la nouvelle messe, détruisons immédiatement cette idée absurde. Si la messe nouvelle est valide, on peut y participer. L'Église a toujours défendu d'assister aux messes des schismatiques et des hérétiques, même si elles sont valides. Il est évident qu'on ne peut participer à des messes sacrilèges, ni à des messes qui mettent notre foi en danger. Ces nouvelles messes, non seulement ne peuvent être l'objet d'une obligation pour le précepte dominical, mais on doit leur appliquer les règles de la théologie morale et du droit canon, qui sont celles de la prudence surnaturelle par rapport à la participation ou à l'assistance à une action périlleuse pour notre foi ou éventuellement sacrilège. C'est pourquoi nous rejetons cette messe malgré sa validité. Et c'est pourquoi nous refusons absolument d'encourager les fidèles à aller à cette messe. Nous détournons les fidèles de ces messes qui peu à peu détruisent la foi du célébrant et des fidèles. C'est clair, c'est absolument certain. Et alors là, on pourrait dire que Monseigneur Lefebvre a vraiment eu un regard très perspicace, puisque donc lui, il a réagi tout de suite dès que la nouvelle messe est apparue. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus clair. C'est évident que quand on interroge ceux qui assistent habituellement à la nouvelle messe, ils n'ont plus, hélas, les notions justes de la pensée catholique. Ils n'ont plus sur beaucoup de points catholiques, ils n'ont plus une pensée juste. Eh bien, c'est sûr que si on cache des vérités, petit à petit, on finit par ne plus y croire. Si on ne vous parle jamais des anges, mais au bout de 10 ans, vous direz, mais est-ce qu'il y a vraiment des anges, voyez? Est-ce que ce qu'on nous a appris au catéchisme, c'était vraiment exact ou pas? Si on vous ne parle pas des vérités catholiques, eh bien, petit à petit, vous risquez et c'est ce qui se passe, malheureusement, dans la nouvelle liturgie. Alors, en conséquence, Mgr Lefebvre disait, pour maintenir la foi catholique, quel est le moyen? Maintenir votre sainte messe. C'est elle qui est la pierre fondamentale de l'Église, c'est elle qui est le trésor que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Ceci est le calice de mon sang, du Nouveau et de l'Éternel Testament. Le sang de notre Seigneur répandu pour la rémission de nos péchés, voilà le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que la messe est du rite latin, il y a d'autres messes dans d'autres rites, mais ces rites contiennent tous les vérités de notre foi catholique et ils les proclament. Nous devons tous être attachés de toute notre âme, de tout notre cœur au saint sacrifice de la messe, parce que c'est là que nous trouverons véritablement ce que l'amour de Dieu a fait pour nous. Car s'il y a un témoignage de l'amour de Dieu pour nous, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix. Que pouvait faire de plus notre Seigneur Jésus-Christ que de s'immoler sur la croix pour nous racheter de nos péchés? La seule attitude logique pour garder la foi catholique, c'est de garder la messe catholique. Et cette messe catholique est contraire à l'esprit du Concile, contraire à l'écuménisme, contraire à la collégialité, contraire aussi au libéralisme qui se trouve dans le Concile. Notre messe est la messe du sacrifice, et il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous ouvre la porte du ciel. La croix, c'est le chemin qui nous mène au ciel. Le sacrifice de notre Seigneur, c'est la voie royale qui nous mène à l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Nous regrettons infiniment. C'est une douleur immense pour nous de penser que nous sommes en difficulté avec Rome à cause de notre foi. Comment est-ce possible? C'est une chose qui dépasse notre imagination. Que jamais nous n'aurions pu croire, surtout dans notre enfance, alors que tout était uniforme. Que l'Église croyait dans son unité générale la même foi, avait les mêmes sacrements, le même sacrifice de la messe, le même catéchisme. Voici tout à coup la division, le déchirement. Des chrétiens sont déchirés dans leur famille, dans leur foyer, les enfants également, à cause de cette division dans l'Église, de cette nouvelle religion que l'on enseigne et que l'on pratique. Des prêtres meurent prématurément, déchirés dans leur cœur et dans leur âme, ne sachant plus que faire. Ou se soumettre à l'obéissance et perdre en quelque sorte la foi de leur enfance et de leur jeunesse, et renoncer aux promesses qu'ils ont faites au moment de leur sacerdoce, en prêtant le serment antimoderniste, ou alors avoir l'impression de se séparer de celui qui est notre Père, le Pape, de celui qui est le représentant de Saint-Pierre. Quel déchirement pour les prêtres. Des prêtres, beaucoup de prêtres sont morts prématurément de douleur. Et c'est vrai, ça. Donc, il faut pas l'oublier. Des prêtres sont maintenant chassés de leurs églises, persécutés, parce qu'ils disent la messe de toujours. Alors, même si nous aussi, nous devons souffrir, eh bien, souffrons pour notre foi. Nous ne sommes pas les premiers. Que de martyrs, avant nous, ont souffert pour garder la foi. Si nous devons souffrir le martyr moral d'être en quelque sorte méprisés, réprimandés par ceux qui devraient être nos pères dans la foi, eh bien, endurons cette souffrance, mais gardons la foi. Le bon Dieu le veut, ainsi que la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie est notre mère. C'est parce que nous sommes de la famille de la Vierge Marie que nous voulons garder la foi qu'elle a toujours professée. Y a-t-il dans le cœur de la Vierge Marie autre chose que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, nous aussi, nous voulons avoir dans nos cœurs un seul nom, celui de Jésus, comme la très sainte Vierge Marie. Nous sommes certains qu'un jour la vérité reviendra. Ce n'est pas possible, le bon Dieu n'abandonne pas son Église. Sans aucune rébellion, sans aucune amertume, sans aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours. Persuadés que nous ne pouvons rendre un plus grand service à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. Nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué par l'Église de toujours dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu et le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de Saint Pie, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Je vous laisse maintenant aller à la chapelle si vous voulez faire une petite prière.